C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, informer, expliquer, c'est essentiel dans cette période de transition écologique que nous traversons. Et c'est l'objectif du 13e Forum de la météo et du climat qui a lieu à Paris ce week-end, dont vous pouvez consulter le programme et suivre les interventions sur Internet. Un événement grand public, loin des deux semaines de négociations internationales qui viennent de se terminer à Bonn, en Allemagne, qui ont pourtant le même objectif, lutter contre les changements climatiques. Une urgence dont toutes les multinationales, notamment françaises, ne semblent pas prendre conscience, comme l'a démontré le documentaire diffusé cette semaine dans l'émission Cash Investigation sur la télévision française. Scientifiques et journalistes seront nos invités tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Et pour informer, il faut comprendre. Depuis 13 ans, la goélette Tara a réalisé 10 expéditions, parcouru 350 000 km autour du monde à travers plus de 40 pays, avec 75 laboratoires et instituts scientifiques impliqués, 21 domaines de recherche scientifique, des dizaines de milliers de prélèvements et d'observations. Les chercheurs embarqués à bord de Tara ont récolté des données précieuses pour comprendre l'état de l'océan. Et c'est reparti pour une nouvelle aventure. Le voilier Tara quitte aujourd'hui le port de l'Orient dans l'ouest de la France pour une expédition de 2 ans et demi à la découverte de l'état des coraux du Pacifique. Avec nous pour en parler, deux invités. Romain Troublé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des fondateurs et le directeur de la Fondation Tara. Alors vous êtes par téléphone puisque vous êtes sur le bateau. On va être honnête vis-à-vis des auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est le jour où le bateau quitte l'Orient. Et pour des questions d'organisation, nous avons enregistré cette émission un peu avant le départ. Donc après l'Arctique, l'Antarctique, le plancton, les microplastiques, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous intéresser au corail ?
On s'est intéressé au corail un peu en 2009-2012, lors de la grande mission sur le plancton. Et puis à cette époque-là, on s'était dit que cet écosystème particulier, très important qu'est le corail, mériterait un jour que Tara s'y intéresse et s'y intéresse sur une grande mission. Et c'est ce qu'on lance aujourd'hui.
Alors avec nous justement en studio, Serge Plane. On dit Plane ou Planès ?
Plane.
Plane, parce qu'il y a un S à la fin. Bonjour, vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes directeur du CRIOB, le Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l'Environnement. Et vous êtes le directeur scientifique, une sacrée responsabilité de cette expédition, qui est pour les coraux d'une ampleur inédite ?
Oui, relativement inédite, parce qu'effectivement... traverser, je dirais, l'ensemble du Pacifique et explorer plus de 40-45 sites sur un espace de temps assez réduit qui va être 2 ans, c'est assez original et vraiment relativement unique.
Oui, alors 100 000 km entre mai 2016 et septembre 2018. Le but, c'est de prélever plusieurs dizaines de milliers d'échantillons ?
Le but, c'est surtout de prélever à l'échelle du Pacifique et donc de pouvoir comparer finalement à l'échelle de ce Pacifique un peu la biodiversité quelque part qui est associée au corail à lui-même.
Alors, le Pacifique abrite l'essentiel des coraux du monde, non ?
C'est quoi, 40% ? La zone Indo-Pacifique, oui, c'est même plus. Là, on est plutôt dans quelque chose qui va être, si on agglomère l'océan Indien, qui est une zone un peu océan Indien, océan Pacifique un peu similaire, où des espèces sont similaires, on est sur, en coraux, par exemple, on est sur l'ordre de 1400-1500 espèces, et certainement 80-85% des récifs coralliens de la planète, avec juste un petit peu plus de récifs coralliens du côté de la Caraïbe, mais qui sont beaucoup plus minoritaires, ne serait-ce qu'en espace. Déjà.
Alors, il y a à peu près 70 scientifiques qui vont se relayer, c'est ça, pendant ces 2 ans
70 scientifiques sur cette première étape, sur l'étape l'année 1, parce que l'année 1 est complètement planifiée. Il y a l'année 2 qui n'est pas complètement planifiée, sur lequel, justement, on va pouvoir ajuster en fonction des premiers résultats que l'on aura sur cette première partie.
Alors, quel va être le trajet ?
Donc, le bateau... part finalement, traverse l'Atlantique et ensuite entre dans le Pacifique via le canal du Panama. Et à partir de Panama, eh bien, on a un trajet quelque part qui va complètement traverser le Pacifique d'est en ouest. C'est aussi un transect, une ligne sur laquelle on a un gradient de biodiversité. On a beaucoup plus de coraux et d'espèces de coraux à l'ouest, du côté de la zone Philippines, Indonésie, beaucoup moins du côté de la zone Panama, même la Polynésie. Et donc, on va suivre un peu ce gradient et regarder toute la micro qui est associé au corail et pour voir si on suit le même gradient.
Et alors, est-ce que c'est compliqué finalement de définir un trajet comme ça ? Parce que vos recherches vont avoir des conséquences, c'est-à-dire qu'elles vont être étudiées derrière pendant 10 ans. Pourquoi aller dans tel endroit plutôt que dans tel autre ?
Alors, il y a premièrement une représentativité des zones, c'est-à-dire essayer d'avoir des zones qui sont assez représentatives des différents grands groupes dits dans le Pacifique. Vous avez la Polynésie, vous avez la Micronésie, vous avez la partie Fidji, la partie japonaise. Donc, c'est des grands groupes d'îles. Après, vous avez quelques îles qui sont plus originales, comme l'île de Pâques, comme les îles qui sont au-dessus de Pitcairn, qui sont un petit peu plus originales, plus isolées. Donc, l'idée, c'est d'avoir justement cette combinaison un peu de grands groupes et d'îles isolées pour avoir un visuel global du Pacifique.
Et vous, Romain Troublé, comme directeur de la Fondation, finalement, vous êtes obligé de vous adapter aux desiderata des scientifiques et de gérer la logistique qui va avec. Comment ça se passe à la veille du départ ?
C'est un travail qui est fait en commun, bien sûr. Et vous savez, il ne faut pas oublier, on est un bateau à voile, il ne faut pas oublier les saisons. Et en plus de ces problèmes, de ces contraintes d'intérêt scientifique, il y a également la contrainte de navigation, d'être dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord, aux bonnes saisons, d'éviter les typhons, par exemple, de faire en sorte de les éviter. Et puis, Tara s'adapte beaucoup. Chaque fois que Tara part en mission, comme celle-ci qui va durer 2 ans, on modifie le bateau, on l'adapte aux besoins de la mission particulière. Et c'est ce qu'on fait depuis maintenant 3 mois et demi à Lorient et qu'on termine juste pour partir aujourd'hui.
Oui, vous avez même changé les moteurs. Enfin, on peut suivre tout ça sur le site internet. Toutes les étapes sont bien tracées. On sent que quand même, c'est une logistique assez lourde, hein.
Oui, parce qu'à partir du moment où le bateau part, des rendez-vous sont pris pour l'année qui vient. Et quand on parlait des 70 scientifiques, mais il y a aussi une trentaine de marins qui vont venir à bord. Et tous ces gens-là doivent savoir quand est-ce qu'ils partent, quand est-ce qu'ils trouvent le bateau. Donc tout ça fige un peu le planning et ajoute des contraintes beaucoup toute l'expédition.
Oui, alors j'imagine qu'il y a quand même un potentiel de retard dans cette expédition, même si chacun a son planning.
Il y en a, oui, mais vous savez, on a parcouru la planète pendant 3 ans et demi à la recherche du plancton, et on a été toujours à l'heure à l'endroit dit. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait différent cette mission qui part, mais on va être vigilant.
Oui, on vous le souhaite. Donc du canal de Panama à l'archipel du Japon, on l'a dit, hein, puis ça c'est l'année 1, puis la Nouvelle-Zélande, jusqu'en Chine, c'est l'année 2. La Goélette va croiser donc quand même 11 fuseaux horaires à travers l'océan le plus vaste de la planète. Elle va joindre les terres insulaires, les récifs les plus isolés du monde. Alors vous passerez donc en Nouvelle-Calédonie. Nous y étions, nous, il y a quelques temps, avec François Porcheron, le réalisateur de l'émission, et nous y avions plongé justement avec Francesca Benzoni, qui fait partie du conseil scientifique de Tara. Elle est chercheuse italienne à l'université de Milan. Et elle nous avait expliqué la véritable guerre que doivent livrer les coraux pour exister au fond de l'eau.
Quand on regarde comme ça, comme on a fait aujourd'hui, le récif, on se dit, bon, il y a beaucoup de choses qui bougent, des poissons magnifiques, des tortues, des serpents, et le fond, bon, ça ne bouge pas. Il y a des coraux, des algues, mais bon, ça, c'est facile à voir. Eh bien non, en fait, il y a une guerre véritable en cours, parce que après la lumière et après la nourriture, la troisième source, la ressource pour laquelle se battre sur un récif, c'est le substrat. Donc chaque organisme de substrat, qu'on appelle benthique, soit des animaux, soit des algues, ils ont évolué des outils, des armes pour se battre dans cette guerre. Et les coraux, ils peuvent attaquer directement les autres avec des polypes très longues et avec des cellules qui piquent. C'est ça la caractéristique des cnidaires. Ce sont des parents des méduses, en fait. Donc le même type de piqûre qu'on reçoit nous d'un méduse, c'est ce que le corail il fait à son voisin pour lui dire « dégage, ça c'est chez moi ». Ou des moyens indirects, c'est-à-dire ils atteignent des formes de croissance comme des tables. Donc la lutte n'est pas directe, mais ils empêchent les autres de pousser au-dessous de la table, en fait. Ou bien il y a des espèces qui, comme des algues rouges, incroutantes, corallines, qui poussent très lentement. Et là, il n'y a personne qui peut leur empêcher de bouger. Ils sont vraiment, ils marchent doucement, mais ils continuent à rouler sur le substrat.
Et oui, Serge Planin, comme vient de l'expliquer Francesca Benzoni, les coraux, ce ne sont pas des pierres passives. Une vraie guerre se livre sous l'eau et même parfois jusqu'à 6 km de profondeur. Hein.
Alors, jusqu'à 6 km de profondeur, c'est des coraux, mais ce n'est pas les coraux, les mêmes coraux que l'on trouve à la surface. C'est ce qu'on appelle les coraux blancs ou les coraux de profondeur. Ce sont des structures un peu différentes. Les coraux que l'on trouve dans les récifs coralliens, ceux que tout le monde a en tête et lorsque l'on parle de récifs coralliens, ils ont la caractéristique d'être effectivement dans cette guerre pour l'espace avec des algues et avec d'autres organismes. Mais ils ont surtout la caractéristique d'être associés à une algue. Et cette symbiose avec l'algue, qui est un élément essentiel du développement du corail, c'est toute l'énergie, ou on va dire 90% de l'énergie très exactement, du corail, de l'animal, cette espèce de petite méduse à l'envers, en fait, qui construit une coquille autour d'elle, tout simplement. Et c'est cette coquille blanche qui est la partie calcaire, qui est la partie dure, finalement, du corail. Cette petite méduse a du mal à se nourrir par elle-même. Et une grande partie de son énergie provient des algues qui sont à l'intérieur, de petites algues qui sont à l'intérieur, on appelle les zooxanthelles. Et ces petites algues qui vivent en symbiose avec cet animal, c'est ça qui produit la nourriture. Or, ces algues, elles ont besoin de lumière. Donc, c'est pour ça que les récifs coralliens sont toujours à proximité de la lumière, très près de la surface. Plus il y a de lumière, plus ces algues se développent, plus le corail a d'énergie et plus le récif corallien se développe.
Alors, on l'a entendu, hein, ils se battent pour exister, mais ils sont aussi beaucoup menacés, d'où l'intérêt de cette expédition menée par Tara pendant 2 ans et demi, parce que les menaces sont multiples. Hein. Il y a tout d'abord le réchauffement des eaux, peut-être.
Voilà, alors les menaces, je dirais que le récif corallien, le corail, on va dire en lui-même, c'est un formidable, à son insu malheureusement, mais c'est un formidable indicateur de notre changement de la planète, et notamment du réchauffement. Parce qu'au-delà de 31 degrés approximativement, et si vous avez une eau qui est au-delà de 31 degrés pendant quelques semaines, eh bien le corail devient tout blanc. Il vient tout blanc parce qu'il est stressé. Et quand il est stressé, la première chose qu'il fait, c'est qu'il ne sait plus trop comment, je dirais, gérer la coexistence avec cette algue dont on parlait en symbiose, et il l'expulse. Et donc, du coup, c'est cette algue qui donne la couleur du corail. Et donc, du coup, ce que l'on voit, c'est une méduse translucide avec une blanche, parce que c'est le calcaire qui est blanc. Donc, tant que le corail est blanc, il n'est pas mort, mais il n'a plus d'algues. Et comme on vient de dire que cette algue produit 90% de son énergie, si cette période-là dure trop longtemps, il finit effectivement par mourir. Et là, on peut avoir des mortalités importantes. À titre d'exemple, lors du grand El Niño de 1998, en l'espace de quelques mois, et quand je dis quelques mois, c'est 3 mois, on a perdu à peu près 18% des coraux de la planète. On est cette année, 2015-2016, on est sur un nouvel El Niño qui a provoqué beaucoup de blanchissement dans la zone pacifique, notamment.
Notamment sur la barrière de corail en Australie, je crois.
Notamment sur la barrière de corail, où effectivement il y a eu des alertes importantes, notamment sur la Nouvelle-Calédonie, notamment sur la plupart, donc, à la fois des coraux qui sont à l'ouest du Pacifique et les coraux qui sont un peu plus au nord du Pacifique. Les coraux qui sont un peu plus au sud-est du Pacifique ont beaucoup moins souffert parce que les eaux étaient un peu moins chaudes dans cette zone-là. Et là, on va, avec l'expédition Tara, passer juste après cet événement. Une des choses en plus que l'on va essayer d'évaluer, c'est effectivement, en plus du travail qui avait été prévu, de longue date, et bien avant qu'il y ait ce El Niño, on va également essayer d'évaluer un peu les mortalités qu'il y a eu dues à cet El Niño, dues à ce réchauffement anormal à cette année-là.
Et puis, il y a d'autres menaces, hein, la surpêche, l'aménagement des côtes.
Voilà, après, vous avez toutes les menaces, je dirais,
pollution,
classiques, qui sont des menaces locales, qui sont l'impact de l'homme direct. Le problème du corail, c'est qu'il vit très près des côtes parce qu'il a besoin d'être près de la lumière, donc il a besoin d'être dans des eaux pas profondes, et que les hommes utilisent beaucoup le littoral également. Donc ce conflit d'usage, je dirais, entre d'un côté l'animal corail et d'autre côté l'animal homme, est une guerre un peu difficile. On parlait de guerre pour l'espace, on est dans une même guerre, ouais, un peu, si je peux le dire.
Et les chiffres ne sont quand même pas très réjouissants, puisque c'est quoi, 20% des récifs qui sont déjà détruits et 20% qui sont menacés d'ici 40 ans?
Oui, c'est ça, c'est à peu près les chiffres que nous donne actuellement le programme mondial pour l'environnement, des Nations Unies, qui évoque à peu près 20 à 25% des coraux qui sont définitivement détruits, et effectivement 40 à 50% qui sont en danger ou en situation précaire, on va dire, d'ici à 2050. Bon, il ne faut pas être trop alarmiste non plus, mais il faut s'en préoccuper, je pense.
Oui, et puis il faut rappeler qu'il y a quand même 500 millions de personnes qui dépendent étroitement de la santé de ces coraux pour leur propre survie.
Directement, c'est-à-dire que leur revenu, quel qu'il soit du tourisme, qu'il soit de la pêche, qu'il soit divers et variés, il y a à peu près effectivement un milliard de personnes qui sont directement dépendantes du récif corallien.
Romain Troublé, la fondation Tara Expédition va profiter aussi de cette expédition pour interpeller justement les acteurs politiques, le monde économique, sensibiliser la société aux enjeux écologiques les plus urgents et aux problématiques rencontrées justement par ces populations qui dépendent de la bonne santé des océans.
Oui, je crois que notre rôle aussi, c'est d'expliquer. Et comme vous disiez en début d'émission, il faut expliquer, faire comprendre un peu ces enjeux à tout le monde, y compris les politiques qui ne sont pas exempts, de comprendre aussi tous ces impacts, ces enjeux. C'est ce qu'on va faire autour du Pacifique, à travers le Pacifique. On va rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de communautés, beaucoup d'hommes politiques de ces États insulaires. Je rappelle que ce sont beaucoup, pour la plupart des États, qui ont tous une voix à l'ONU aussi. Et on va essayer de mettre en avant leur vision, de mettre en avant aussi leur préoccupation, de faire parler, de leur donner la parole. Et c'est aussi ça le travail de Tara. Il y a la recherche, c'est soutenir la recherche, très important aujourd'hui, et également de partager ça avec le plus grand nombre, les petits, les enfants, à travers tout ce qu'on fait pour les programmes pédagogiques, mais aussi au grand public et au monde politique.
C'est un peu une nouvelle dimension, ça, le côté vraiment militant de Tara et de stimuler, on va dire, les politiques au gré de votre passage. C'est un peu la nouveauté de cette expédition ?
Oh, c'est quelque chose qu'on développe depuis quelques années maintenant. On est un membre consultatif à l'ONU, à New York, depuis un an maintenant. Donc on prend la parole à New York à ce sujet-là. Et on n'est pas trop en militantisme, on est plus dans la connaissance, l'état de la connaissance, ce que ça veut dire, que ça impacte, et donner la parole aux scientifiques, même à la tribune de l'ONU. Et Serge Plain, qui est ici avec nous aujourd'hui, ira à l'ONU, je crois, cet été, et il retournera, je pense, pendant la mission.
Serge Plain, vous allez aller à l'ONU cet été ?
Oui, mais c'est dans le cadre d'expliquer un petit peu, notamment aux fellows des petites nations du Pacifique, la situation réellement des récifs coralliens dans le Pacifique et les préoccupations que l'on peut y voir, et éviter certaines idées toutes reçues qui ne sont pas forcément justes.
Par exemple,
les questions de montée du niveau de la mer, dont il y a eu beaucoup de fantasmes là-dessus, et peut-être qu'il faut regarder un petit peu de façon plus réaliste ce qui va en être. Mais à l'inverse, des dégradations sur le corail qui ont une implication, alors pas immédiate ou pas directe sur la montée du niveau marin, mais en partie également sur la montée du niveau marin, parce qu'il empêche le corail, ça produit du calcaire, donc ça produit de la matière qui recharge les îles. Si vous n'avez plus cette production, vous ne rechargez plus les îles et donc vous avez effectivement des problèmes après d'impact de démontée des vagues.
Alors ça ferait l'objet d'une autre émission, mais on a reçu des chercheurs dans cette émission qui nous disaient que justement, c'est un peu ce que vous évoquez, contrairement aux idées reçues, certains récifs coralliens, certains atolls se reconstituent et en fait, du coup, montent par rapport au niveau de la mer au lieu de couler. Donc il y a des endroits où les certitudes méritent d'être un peu chamboulées.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui paraissent, je dirais, logiques en disant mais oui, l'eau monte parce qu'il y a du réchauffement, les pôles et les glaces fondent, donc l'eau monte un petit peu. Oui, certes, mais en fait, ces îles insulaires, elles sont aussi en grande partie construites par un animal vivant, qui est le corail. Et si vous n'avez pas cet animal vivant, si vous n'avez pas cette production-là, là, vous allez casser un cycle quelque part dans la construction et dans le renouvellement de ces îles-là. Et ce cycle est essentiel. Et ce cycle, je dirais, j'irai pas jusqu'à dire que les îles montent au-dessus du niveau marin comme ça, mais continuent de s'entretenir par cette production de matière.
Oui, donc il faut lutter contre les changements climatiques pour protéger les coraux, mais protéger les coraux permet aussi de lutter contre les changements climatiques. Finalement, c'est un cercle vertueux.
C'est effectivement absolument ce que l'on a dit et que l'on répète, c'est-à-dire que c'est souvent des mesures de conservation et d'aménagement du littoral, de protection du récif corallien, qui vont être les meilleurs moyens de lutte contre les effets, en partie, du changement climatique.
Donc, Romain Troublé, ça y est, vous êtes prêt à larguer les amarres ?
On est prêt à larguer les amarres, bien sûr, et on a devant nous l'Atlantique pour mettre tout ce qu'on a prévu, en tout cas, en route, pour bien vérifier tout ça et pour aussi tester beaucoup de protocoles qu'on a prévu de faire aussi au long cours, parce qu'on va étudier les coraux, mais on va aussi étudier, bien sûr, chaque fois que Tara naviguera, on va s'intéresser énormément à la surface de l'océan, à ce qu'il vit là, et au plancton qui vit là, et à sa caractéristique.
Départ aujourd'hui, donc ce samedi 28 mai, pour une traversée de l'Atlantique. C'est pas du vent suivra l'expédition. Tous les mois, un journaliste à bord nous fera vivre l'aventure en nous envoyant ses reportages. Donc bon vent à tous les deux, bon vent à toute l'équipe. Restez sur RFI juste après le flash d'info. Nous vous dirons tout sur le 13e forum météo et climat qui se déroule à Paris ce week-end. L'occasion d'apprendre plein de choses sur les causes et les conséquences des changements climatiques. À tout de suite.
Écho d'ici.